Grand Studio RTL spécial Mylène Farmer, présenté par Anthony Martin.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en cette rentrée pour un grand studio exceptionnel jusqu'à 16h, en tête à tête avec la chanteuse française la plus discrète, une heure avec Mylène Farmer. Nous sommes au bord du lac Léman à Genève, dans la suite de son hôtel, dimanche dernier en début d'après-midi. Bottines à talons, costume noir, petit pull à col roulé malgré les 30 degrés au soleil. Mylène Farmer n'aime pas les interviews. L'instant était tellement solennel qu'on a été pris tous les deux d'un énorme fou rire avant de commencer. Alors on s'est assis dans l'herbe, dans le jardin de sa suite, et j'ai rencontré une artiste souriante, détendue et bavarde.
Studio RTL spécial Mylène Farmer.
Bonjour Mylène Farmer.
Bonjour.
Merci de m'accorder cet entretien. Nous sommes à Genève. Vous avez donné un concert hier devant 32 000 personnes à Genève. Comment vous sentez-vous au lendemain de ce concert?
Je vais vous répondre comblée et à la fois évidemment très très fatiguée. Mais des moments inoubliables. Inoubliable.
Vous ne vous ménagez pas sur scène, vous arpentez la scène de long en large, vous dansez évidemment parce qu'on vous attend aussi pour ça. Vous concevez la scène comme un défi physique aussi?
En tout cas, je m'y prépare. J'ai à peu près 6 mois d'entraînement avant que de me produire en scène avec un coach qui s'appelle Hervé Lewis, avec qui on fait un travail incroyable. Il me connaît depuis presque, j'allais dire, une quinzaine d'années. Donc on se connaît vraiment très très bien. Donc oui, l'appréhension physique, si je puis dire, en tout cas l'exercice physique, fait partie du spectacle. Mais quand on est porté par un public, celui que j'ai devant moi, c'est quelque chose qui est tellement porteur qu'on en oublie l'effort. C'est plus l'émotion qui gagne le terrain.
Vous adorez entendre chanter le public. Souvent, à la fin d'un morceau, d'un tableau, d'une chanson, vous reprenez a cappella pour les entendre. Ça, c'est le plus beau cadeau finalement pour un artiste.
C'est le moment probablement le plus magique, en tout cas un des moments les plus magiques, c'est vrai, puisqu'il s'approprie et la chanson, c'est presque de l'ordre du divin, ce sont des mots un petit peu graves toujours, mais c'est quelque chose, je reprends le mot magique, c'est exceptionnel, oui, de vivre quelque chose comme ça, bien évidemment.
Quand on vous voit sur scène, on se dit que vous ne pouvez pas préférer l'ombre à la lumière. Vous avez l'air si forte, si vivante dans la lumière.
Et là, je vais vous répondre que le choix de l'ombre et la lumière est le choix entre la vie privée et la vie publique, qu'on peut rester vivant aussi dans l'ombre. J'ai ce paradoxe en moi. Je suis capable de vivre aussi bien dans l'ombre et de m'exprimer dans la lumière.
Mais on a l'impression que votre timidité est transcendée quand vous vous trouvez, comme hier soir par exemple, devant 30 000 personnes. Vous l'expliquez comment ça?
Alors ça, je crois que je n'ai pas d'explication. J'ignore moi-même, si ce n'est que je sais mon handicap devant 3 personnes. Je ne sais pas si je peux qualifier ça d'aisance devant 30 000 personnes, mais en tout cas, il y a une bascule qui se fait presque naturellement. J'ai plus de difficultés, oui, avec 2-3 personnes que devant une immense audience.
Parce que finalement, vous n'avez pas à leur parler. Vous êtes là pour leur offrir et recevoir. C'est peut-être ça.
En tout cas, les mots sont à travers mes textes. Et là, pour le coup, il n'y a rien de préparé. Quand j'ai envie de dire quelque chose, c'est que j'en ressens le besoin. Là, c'est place au naturel, c'est place à l'émotion en direct, pour le coup.
Justement, quand vous écrivez vos textes, est-ce que vous pensez déjà à l'aspect visuel d'un tableau, dans un futur, sur scène?
Non, sincèrement, là, je suis dans une pièce isolée. Je travaille avec Laurent Boutonnat, donc, qui est aussi compositeur. Et les mots, j'allais dire, s'appuient, s'accrochent, s'harmonisent avec la musique. Donc j'ai besoin de la musique avant d'écrire des mots. Parfois la musique m'inspire des sentiments, des sensations. Parfois j'ai une envie de texte et puis la musique s'accorde avec ce texte. Mais en aucun cas l'image n'apparaît dans ma mémoire à ce moment-là, non.
Vous me disiez, vous êtes dans une pièce quand vous écrivez vos paroles. Donc vous êtes seul, comme un écolier à son bureau avec une page blanche, le stylo, vous mettez un fond sonore, donc là vous vous inspirez de la musique, ça se passe vraiment comme ça?
Ah, tout à fait, dans une pièce en tout cas totalement isolée, ça j'en ai besoin. Comme un écolier-écolière, j'ai un très mauvais souvenir de scolarité. En tout cas, besoin bien évidemment d'isolement et puis la musique sur laquelle je mettrai des mots.
Sur scène, vous incarnez vraiment, et c'est ce qui est fascinant, l'intimité et la grâce dans une mise en scène gigantesque. Quel est le secret pour marier tout ça, pour y arriver?
J'ai toujours aimé, moi, avoir besoin du gigantesque et du spectaculaire. Maintenant, j'ai besoin de moments d'intimité. Et c'est ce qu'on a essayé de créer sur ce spectacle, à savoir avec le proscénium et la croix qui est au centre du stade même. Et c'est là qu'il y a un vrai, vrai partage. J'allais dire, il y a un partage même quand on est sur une scène frontale. Mais vraiment au milieu, sur cette croix, on crée ce moment intime qui pour moi est de l'ordre de la... J'allais dire de la communion presque, encore un mot fort, mais c'est vrai que c'est un vrai, vrai moment d'intimité. Malgré le grand nombre, ce grand nombre devient quelque chose d'assez exceptionnel pour moi.
Il y a un autre couple, on a parlé gigantisme et intimité. Il y a aussi le couple qui frappe quand on vous voit sur scène, c'est discrétion et provocation. Comment faites-vous pour que discrétion et provocation fassent bon ménage?
Tout dépend si vous évoquez discrétion dans la vie privée ou est-ce que c'est discrétion sur scène même.
Sur scène, vous êtes discrète, vous êtes intime et en même temps vous êtes forte, vous êtes présente, ça tient sur vous, c'est vous qui menez ce gros barnum, le mot n'est pas beau mais au moins on comprend ce que je veux dire. Et vous êtes dans la provocation aussi, dans les chorégraphies, les tenues.
Je vais vous faire une réponse assez banale. Toutes ces facettes font partie de moi. Je suis de nature discrète en général, de nature timide parfois, mais l'éclat de rire fait partie de moi aussi, comme vous avez pu le constater, puisque nous avons eu du mal à démarrer. Et puis à la fois, je crois que j'ai cette... là, pour le coup, je n'y suis pour rien, c'est un cadeau de la vie. J'ai à la fois sans doute cette fragilité, mais aussi cette force. En tout cas, je vais l'exprimer de cette façon. C'est une force qui me permet de surmonter toutes mes peurs, tous mes démons, au moment où j'en ai le plus besoin.
Il ne reste plus que 3 concerts dans cette tournée 2009. Est-ce que vous avez une appréhension de la fin de tournée, le spectacle blues?
Je l'ai, je crois que je l'avais dès le premier jour, puisqu'on sait que tout début a une fin. Maintenant, quant à la gestion de ce blues, de ce grand vide... C'est quelque chose d'abord qui m'est très très personnel, mais je ne vous cache pas que tout artiste vous répondra oui, c'est un vide qui est presque insurmontable. Je crois que le secret dans ces cas-là, c'est ma foi de se reprojeter dans une création, voilà, créer quelque chose, non pas pour oublier, mais pour se redonner la force de continuer de vivre.
Donc c'est par la création que vous allez remplacer les applaudissements chaque soir à 21h, parce qu'il n'y aura plus personne pour vous applaudir dans votre salon.
Alors remplacer, ça va être compliqué, de toute façon c'est irremplaçable, mais oui, c'est certainement par la création que je vais retrouver des forces, l'envie de continuer.
Que faites-vous, Mylène Farmer, 10 minutes avant d'entrer en scène? Si on peut faire le décompte, vous êtes avec qui? Vous êtes où? Est-ce que vous avez des rituels, des objets qu'il faut absolument avoir sous la main?
Écoutez, quant au rituel, je ne sais pas si je peux... Non, là encore, la pudeur regagne du terrain. J'ai auprès de moi Anthony, qui reste avec moi dans la loge.
Anthony, votre meilleur ami?
C'est un moment, en tout cas les 10 dernières minutes sont vraiment un moment de recueillement. Quand j'allais dire de recueillement, c'est plus de concentration. Et puis, pour trahir un tout petit secret, Laurent passe 5 minutes avant l'entrée en scène.
Laurent Boutonnat, votre compositeur?
Me serre la main et me dit « fais le vent ». Et la personne ne comprend. Mais « fais le vent », ça veut dire « c'est respire ». C'est une manière de respirer, d'essayer de déstresser un peu. Mais c'est vraiment dans le silence. Et quant aux objets, ma foi, ils sont là, mais ils sont miens.
Vous en avez en tout cas.
J'en ai.
Vous êtes attentive aux productions des autres artistes, à la fois sur scène ou en studio, les albums. Vous écoutez beaucoup?
J'écoute beaucoup de musique, je suis attentive. J'ai évidemment, comme tout le monde, des préférences. Mes goûts musicaux sont assez éclectiques. Je vais vous donner quelques noms. J'adore Sigur Rós, j'adore leur univers. J'adore Depeche Mode, j'adore David Bowie, j'adore Archive, Juliette Gréco, etc., etc. Il y a énormément d'artistes que j'apprécie, bien sûr. Et ce sont en général des artistes qui ont leur propre univers et sur scène qui ont envie de proposer au public des choses aussi assez incroyables, même si elles restent là très très intimes, si on parle d'une Juliette Gréco, par exemple. Mais c'est une, j'allais dire, une telle présence, un tel univers de mots et de personnes, de choses profondes, qui me touche beaucoup.
C'est marrant parce que Juliette Gréco, que j'ai rencontrée il y a 2 mois à peu près en interview au moment de l'occasion de la sortie de son album, m'a longuement parlé de vous en interview en me disant tout le bien qu'elle pensait, l'admiration qu'elle avait pour vous.
C'est gentil, ça me touche.
Puisqu'on parle des autres artistes, est-ce que la mort de Michael Jackson vous inspire, en tout cas, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette mort?
Le tragique, la notion de d'incompatibilité ici, de, j'allais dire encore, de vie privée et vie publique, de médias. C'était un immense, immense artiste, nous le savons tous. C'est quelqu'un dont j'appréciais, comme beaucoup d'entre nous, les spectacles. Mais l'homme aussi, sa fragilité, sa sensibilité. Et c'est tragique, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Voilà, je suis triste, comme beaucoup de personnes.
Et les albums, les DVD, vous les avez à la maison?
Absolument.
Si on fait le point, Mylène Farmer, puisqu'on se rencontre en 2009, au mois de septembre, ça fait 25 ans. 25 ans de carrière. Pour durer, le secret, c'est le travail.
J'ai toujours peur de donner des leçons, mais en tout cas, le travail, l'opiniâtreté est essentiel, oui.
Parfois dans la souffrance?
Je crois que c'est là indissociable, hein, en tout cas, bon. Je ne vais parler que de moi. J'allais dire, tout travail est une, certes un plaisir, c'est un acharnement, mais la douleur en fait partie. La douleur parce que les doutes, peut-être la douleur physique, faut aller au-delà de soi. Oui.
Je me posais la question, parce que votre univers, on le connaît, il est très défini, très cohérent depuis le début. Où est-ce que vous allez chercher votre nourriture artistique?
Un peu partout. Je peux vous parler d'une exposition que j'ai découverte à New York il y a quelque temps et qui s'appelait Art Body. Beaucoup d'écorché, c'est l'humanité décharnée, découpée. Et j'avoue que j'ai été très, non pas choquée, mais très impressionnée, intriguée. Fait partie aussi d'une réflexion et m'a donné l'idée, en tout cas, de l'envie d'exploiter l'écorché et justement le corps. Et donc est née cette idée de l'écorché. Et j'en ai parlé à Jean-Paul Gaultier qui était enchanté de pouvoir créer un écorché multiplié par tous les danseurs. Et c'est le tableau d'ouverture. Voilà, ce peut être une source d'inspiration. Maintenant, bien sûr, la peinture, la littérature, tout ce qui peut passionner et faire partie de notre vie. Des auteurs, Stephen Zweig, mais là encore, je vous épargnerai la liste. Parce que
c'est assez intéressant finalement de savoir que peut-être les voyages vous inspirent. Est-ce que les rencontres humaines vous inspirent?
Je crois que l'être humain m'inspire tout simplement. Maintenant, vous dire, est-ce que cette personne aura déclenché telle idée? Là, ponctuellement, je peux pas vous le dire, j'en sais rien. Mais les rencontres sont... les belles rencontres sont très très rares, mais elles sont... indispensable à sa vie.
Je le disais, 25 ans de carrière, Mylène Farmer, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir construit une œuvre?
Non, je peux pas vous dire non. Stefan Zweig va construire une œuvre. J'ai construit quelque chose. Je suis fière de ce que j'ai pu construire, sans prétention aucune. Je suis heureuse d'avoir rencontré un public. Je suis heureuse de cette fidélité. Voilà.
Est-ce que le fait de durer aussi répond à une obsession de laisser une trace?
Écoutez, très sincèrement, l'obsession de laisser une trace ne fait pas partie de moi. Maintenant, pour être tout à fait honnête, j'aimerais que l'on ne m'oublie pas. Mais la vie n'est pas finie, donc à moi de le construire.
Vous avez peu de souvenirs de votre enfance. Est-ce que vous avez imprimé ces 25 dernières années de chansons, de musique, de tournées, de rencontres avec le public?
J'ai imprimé des moments uniques. J'ai une mémoire qui est très très sélective aussi, je crois qu'elle est nécessaire, sinon on est envahi par trop de choses et des choses qu'on voudrait ou qu'on a oubliées, c'est nécessaire, je crois, pour sa santé mentale. Mais des choses qui sont inscrites très très fortement, bien évidemment, tout au long de ces années, forcément.
Ce sont des images de scène ?
Aussi. Aussi et surtout. Mais il y en a d'autres aussi, plus douloureuses, mais qui ont nourri ma vie.
Et puis la présence chaleureuse du public, qui se manifeste pendant les concerts et peut-être aussi entre les concerts, quand vous croisez les fans.
Ça, vous savez, c'est une fois de plus, là encore, c'est moi qui réponds, mais j'imagine que tous les artistes, répondent la même chose. Si ce n'est que je leur dois tout. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai une chance inouïe, je le sais. C'est eux qui m'ont soutenu, qui m'ont, aidé, probablement permis de vivre. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est là encore un cadeau de la vie que je ne soupçonnais pas possible pour moi. Et même si on évoquait le travail, laissons le magique opérer. Et ce public pour moi est magique et dans son intensité et dans sa fidélité, bien évidemment. J'ai une chance inouïe.
Est-ce que finalement ce métier a été votre survie ?
Oui, oui, là définitivement, oui. Oui, c'est quelque chose qui m'a aidé à m'incarner. Là où j'avais le sentiment, plus jeune, de n'être pas incarné du tout, de n'être attaché à rien, de n'être relié à rien. Oui, c'est fondamental.
C'est très fort de dire oui, finalement, à cette question.
Parce que là encore, je crois que c'est l'honnêteté, même si elle est, même si ça peut paraître enfantin ou démagogue, ou, enfin, peu importe. Là, vous êtes témoin, c'est spontané, c'est vrai.
Est-ce que vous avez apprivoisé vos peurs et vos souffrances avec le temps, avec le succès ?
Non. Et c'est sans doute pas grave, ou très grave, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais j'ai certainement pensé des plaies. Il y a toujours ce mot qui revient dans le vocabulaire de chacun d'entre nous, c'est faire le deuil de quelque chose. Malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse faire le deuil de quelque chose. Maintenant, on peut tenter de faire réémerger la vie et des choses qui vous aident à tenir, qui vous aident à vous réveiller, qui vous aident à sourire. Maintenant, tout ce qui est douleur, tout ce qui est doute, tout ce qui est peur sont là, ancrés. Et là encore, ça fait partie de votre sang, de vos veines. C'est là, c'est présent, mais c'est sans doute nécessaire. Peut-être pas, mais c'est là en tout cas.
Nécessaire à la création.
On va dire que c'est forcément, ça aide en tout cas à une certaine créativité, oui.
Dans le spectacle, visuellement sur les grands écrans géants, on voit beaucoup de têtes de mort. Est-ce que l'idée de mourir vous terrifie-t-elle encore ?
L'idée de mort, de ma propre mort, en tout cas l'idée de la mort me terrifie, fait partie de chaque 2 secondes de ma vie. Est-ce que ma propre mort me terrifie ? Je vais vous dire parfois oui, parfois non. Parfois, le mot fatalité est plutôt serein. Je me dis, bon, ça se fera. De toute façon, c'est inéluctable. Parfois, elle me hante et parfois je l'oublie. Là encore, c'est tout et son contraire. Donc, je ne vous aide pas beaucoup dans ma réponse.
Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie, Mylène Farmer ?
Les débuts d'interview. Où on a un air très dramatique quand on commence. L'absurde, probablement.
L'absurde sous toutes ses formes, visuelles.
Toutes ses formes.
Dans les dialogues aussi.
Aussi.
Au cinéma, je sais que vous avez une passion pour le cinéma.
Je voudrais aller voir le film de Tarantino, puisqu'on m'en a dit grand bien et ça provoquait beaucoup d'éclats de rire. Donc voilà. Je n'aime pas tout, il y a certains films que j'ai adorés, de même que j'accepte qu'on n'aime pas tout de moi. Mais ce film-là en particulier, oui, il m'intrigue.
Vous avez finalement passé 25 ans, et ça va encore continuer, on le sait, et évidemment je vous le souhaite, à peaufiner les contours de votre univers artistique, avec ce culte évidemment du mystère. Comment est-ce que vous définissez le mot mystère ?
Le mot mystère, mon Dieu. Déjà pour commencer, il n'y a pas de stratégie du mystère me concernant. J'espère qu'on l'a compris. Maintenant, vous dire quelque chose sur le mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui peut être d'un ordre religieux. Mais là, je vais vous donner une définition de dictionnaire. Laissons cette réponse mystérieuse. Je ne suis pas sûre de pouvoir définir le mystère.
Nous sommes le 12 septembre, c'est une belle journée, Mylène Farmer. C'est votre anniversaire aujourd'hui et vous n'êtes pas prêt d'aller vous coucher puisqu'un gros cadeau vous attend au Stade de France ce soir. 80 000 personnes pour le dernier concert de votre tournée en France. Vous aimez faire la fête pour votre anniversaire ?
Je vais vous faire une confidence, il y a fort longtemps que je ne célèbre plus mon anniversaire. Mais pour être tout à fait franche, un anniversaire, devant 80 000 personnes au Stade de France, c'est quelque chose qui sera, je crois, incroyable à vivre. Donc j'adore cette idée-là. Celle-ci, je l'aime. Et cette date, évidemment, n'a pas été choisie. Il se trouve que le Stade de France était libre le 11 et le 12 septembre. Il se trouve que le 12 septembre est cette fameuse date anniversaire. Donc ce sera quelque chose d'assez unique, effectivement, pour moi. Ce sera un immense cadeau de 80 000 personnes. C'est incroyable.
Puisqu'on parle de l'avenir, vous m'avez dit d'ailleurs, après une tournée, le meilleur, c'est de se replonger dans la création. Est-ce que vous avez une idée du prochain disque studio?
Absolument pas. Absolument pas. Parce que, bien évidemment, on pense à qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire demain. Maintenant, je n'ai pas les réponses. J'ai le projet d'un long métrage. On verra. J'ai bien évidemment le projet d'un prochain album, mais là encore, c'est une page blanche, une page totalement blanche, mais très envie de m'y remettre très très vite.
On évoquait votre passion pour le cinéma. Vous me dites projet d'un long métrage. J'imagine que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
C'est un projet qui avait été initié par Claude Berry, que j'aimais profondément, tiré d'un ouvrage de Nathalie Reims et dont le metteur en scène sera Bruno Aveillant, et ce sera pour lui son premier long métrage, et ma foi, après, c'est l'avenir dira.
Et ce sera pour vous un premier rôle?
Et ce sera pour moi un premier rôle, un deuxième film, et j'espère une rencontre avec le public.
Est-ce que ça veut dire pour l'avenir aussi que peut-être un jour vous essaierez de laisser une part plus importante au cinéma?
Je n'ai aucune réponse à cette question. J'ai besoin de la musique, j'ai besoin des mots. Je pense que j'en suis même convaincue, je suis quelqu'un d'instinctif. Donc je sais que le jour où je ne souhaiterai plus dire ces mots, chanter, je choisirai ce moment avant qu'il ne me choisisse et ne me saisisse. Est-ce que ce sera pour laisser la place au cinéma? Je n'ai sincèrement pas la réponse. Je ne sais pas.
Vous connaissez la date, l'échéance?
Non, bien sûr que non. Non, non.
Assuré.
C'est gentil. Non.
Qu'est-ce qui vous ferait arrêter la musique?
L'absence de désir. Vous allez avoir un énorme silence pour une radio ici.
C'est parfois intéressant.
Quand on n'a plus envie de donner ni envie de recevoir, d'abord j'imagine qu'on est un être mort, donc je ne me le souhaite pas, mais je crois que tout art a ses limites. Je sais pas, je vais peut-être dire une énorme absurdité, je sais pas, je reviens encore à l'idée d'instinct. Je crois que ce sera spontané, quelque chose en moi me dira là il faut arrêter.
Ça révèle une vraie force de caractère.
Peut-être ça fait partie aussi de moi, cette force de, oui, de caractère sans doute. En tout cas, ne pas tricher avec soi-même. Voilà, ne pas se mentir et essayer de dormir un petit peu de temps en temps.
Vous dormez tranquille enfin aujourd'hui ou?
Non. Non, ce n'est pas possible. Mais là encore, je crois qu'on va conclure cette interview. J'ai une fois de plus une chance incroyable. Je vis des moments incroyables. Je remercie à nouveau de vive voix le public. Je remercie cette fidélité et je vais essayer de ne pas pleurer là. Merci beaucoup.
Et c'est moi qui vous remercie. Merci Mylène Farmer de m'avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.